C'est l'heure de la chronique des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, mardi, nous avons eu droit à un débat enflammé sur les enjeux francophones. On nous explique le tout dans Franco-Presse.
Oui, ça a été présenté un mardi, comme vous dites, ici à Ottawa, avec des candidats des cinq partis. On avait donc à ce débat-là le chef du Parti vert, Jonathan Penneau. Les autres étaient des députés bien connus quand même, des grosses pointures et des gens qui connaissent très bien le milieu minoritaire, même si c'était tous des candidats québécois. Je vais revenir sur leur nom, mais ce qu'on nous a dit, les commentaires qu'on a eus et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu plus d'action pendant ce débat-là que pendant les débats des chefs qui ont eu la semaine précédente.
Ah oui?
Ça n'a pas pris de temps que les candidats sont mis à... Ils sont pas insultés, mais ils essaient d'occuper la parole, puis ils parlaient, puis ils s'accusaient de différentes choses.
Oh.
Et c'est d'ailleurs le libéral... candidat libéral Steve McKinnon, qui était aussi ministre à la clôture du gouvernement, qui a été le plus attaqué à cause du bilan des libéraux sur la francophonie canadienne, qui est pas mauvais, mais qui a quand même des lacunes. Le conservateur Joël Godin, qui est un candidat de conservateur dans la région de Québec, et qui était critique en affaires de langues officielles à la clôture du gouvernement, a aussi été ciblé, a beaucoup attaqué les libéraux, entre autres rappeler qu'il n'avait pas dépensé les 80 millions qu'il avait promis pour le postsecondaire francophone promis à la campagne de 2021. Il a aussi accusé, M. Godin aussi été la cible des autres à cause de la promesse des conservateurs de couper le financement de la CBC. On rappelle que ça affecterait Radio-Canada aussi. Ça, on peut pas couper CBC sans créer des problèmes pour Radio-Canada parce qu'à l'extérieur du Québec, ils partagent des locaux et c'est le CBC qui accueille Radio-Canada dans ces locaux-là. On a aussi beaucoup parlé d'immigration. C'est revenu, il y avait une ou deux questions là-dessus, mais les candidats sont revenus quelques fois. On a entre autres rappelé du côté libéral qu'on visait vraiment la cible de 12% d'immigration francophone en milieu minoritaire d'ici 2029, qui est la cible demandée par la SCFA, mais sauf que la SCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, veut le 12% dès 2026, donc il y a une différence de temps ici. Mais de son côté, M. Godin lui a répliqué tout de suite que les conservateurs promettaient 20% d'ici 2029, 20% d'immigration francophone. On a parlé un peu de médias dans ce cas-ci, c'est revenu sur Radio-Canada, mais le candidat du NPD, François Choquette, a quand même mentionné de son côté qu'il voulait appuyer les petits médias, entre autres en bonifiant l'initiative de journalisme local, qui est un financement qui permet d'embaucher des journalistes dans des régions où il y a moins de nouvelles, où il y a une pauvreté de nouvelles, comme on dit. Puis à la fin, on a parlé du commissaire aux langues officielles, là, on doit en nommer un nouveau cette année, mais on espère que le nouveau, non seulement la personne, mais le poste en question aura plus de mordant qu'avant.
Est-ce que Jonathan Penneau s'en est mêlé, vu qu'il avait été exclu des débats télévisés?
Oui, c'est pas venu directement sur le sujet. Une des questions qui lui a directement été posée, c'était justement est-ce qu'il croyait être en mesure de représenter la francophonie canadienne alors que ils n'ont pas de candidats dans 90% qui ont des candidats seulement dans 66% des circonscriptions. Il a tourné un peu autour du pot, je dirais qu'il n'a pas vraiment répondu à la question.
Dans la voix acadienne, il est question des personnes 2SLGBTQIA+.
Oui, il y a l'organisme Peers Alliance qui a décidé de fournir de l'information aux enseignantes et enseignants de la province pour les aider à répondre aux questions des élèves sur ce sujet-là. C'est de la documentation vraiment qui cible la désinformation, qui donne de l'information qu'on vous dit vérifiée et vérifiable pour outiller les enseignants finalement. Ce qu'on dit, c'est qu'il doit de plus en plus souvent mener des conversations en classe sur ces sujets-là, parce qu'il y a des jeunes qui posent des questions. Il y a aussi des événements qui arrivent parfois et il faut désamorcer. On dit du côté de l'organisme Peers qu'il faut combattre l'augmentation de la haine envers la communauté de SLGBTQIA+, et surtout combattre les fausses informations qui circulent. Ils ont remarqué, en fait, c'est qu'il y a des brochures qu'on a de la désinformation sur ces comités-là qui sont envoyées aux écoles au mois de mai, donc juste avant le mois de la fierté qui est au mois de juin. Donc, ils veulent un peu contrer l'information qui est dans ces documents-là, qu'ils nous disent. Puis, selon eux, c'est parce que l'éducation, c'est la meilleure façon de contrer la montée de la haine.
Oui. Tout à fait. Maintenant, dans l'Acadie Nouvelle, la coopérative financière Unie veut convaincre ses clients perdus de rentrer au bercail. Des clients perdus?
Oui, je suis plus certain si je l'avais raconté, mais je fais que je vais revenir rapidement sur le sujet. C'est qu'en 2023, Unie, qui est un peu l'équivalent de Desjardins au Québec et au reste du Canada, une coopérative financière, avait lancé sa propre plateforme de services bancaires en ligne. Mais il y a eu des ratés dès le départ. Le démarrage n'a pas été très
concluant.
Très efficace, disons. Oui, entre autres. Les clients ont été bloqués de leur financement, de l'accès à leur compte pendant quelques jours. Ça a vraiment causé beaucoup de problèmes pour des particuliers et des entreprises. Ça a évidemment entraîné des pertes financières. Par exemple, dans les années avant le lancement de cette plateforme-là, Unie avait réalisé des bénéfices de 30 millions. Et en 2023, au moment du lancement de la plateforme, ils ont plutôt perdu 3,7 millions. Puis en 2024, c'était 2,9 millions. Donc, ça s'améliore tranquillement. La plateforme fonctionne maintenant. Il n'y a plus de ratés. On dit quand même des améliorations qui s'en viennent. Mais, comme on dit, ils ont perdu des clients dans tout ça. Il y a des gens qui sont carrément partis un peu frustrés et ayant perdu confiance. Et ce qu'ils ont rapporté à l'Assemblée générale annuelle, c'est qu'ils avaient perdu environ 6 500 clients pour la population du Nouveau-Brunswick. C'est quand même un gros chiffre,
oui.
Une grosse perte de clients. Donc, on vise en 2026 une campagne de promotion pour ramener des clients et aller en chercher des nouveaux. Puis, d'après les commentaires recueillis par les journalistes de la Quête Nouvelle à la sortie de l'Assemblée générale annuelle, c'était les gens qui étaient là étaient quand même rassurés par ce qu'il y avait été.
Bon, tant mieux. Une saison touristique qui promet dans le centre de l'Ontario, bien oui, il n'y a personne qui veut aller aux États-Unis, donc on reste au Québec et au Canada.
On avait parlé un peu à l'île du Prince-Édouard il y a quelques semaines, il y avait un sentiment similaire. Cette fois-ci, c'est Destination Ontario, qui est l'organisme pour le tourisme en Ontario, qui a fait un sondage, puis le sondage indique vraiment que la province devrait connaître une hausse d'achalandage en 2025. Il y a déjà eu une hausse en 2022, puis la région de Simcoe-Muskoka, qu'on appelle, qui est juste au nord de Toronto, là, c'est autour de Bellevue, c'est juste sous la baie Georgienne, avant d'arriver dans le nord de l'Ontario.
Ah, oui.
Cette région, oui, l'Inimuskoka, c'est très connu. Il y a beaucoup de lacs, c'est des forêts. Il y a beaucoup de petits villages pittoresques dans ce coin-là.
On aime ça parce qu'il n'y a pas de monde, mais là, ils vont en avoir.
Exactement. Puis justement, comme vous dites, parce que c'est très choyé parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités à faire dans ce coin-là qui sont recherchées par les touristes, entre autres la nature. Hein. Comme je viens de dire, il y a de la forêt, oui, mais... Si vous connaissez Wasaga Beach, c'est tout ce coin-là, toutes les petites villes sur le bord de la baie Georgienne, c'est magnifique. C'est des plages de sable comme dans le sud, là, puis ça n'a pas besoin d'aller en Floride pour les avoir en été. On peut faire de la randonnée en nature, de la randonnée en vélo, puis la plage, comme je vous disais. C'est le Québec qui envoie le plus de touristes en Ontario, mais il y a aussi une augmentation au cours des dernières années de touristes venant de la France. Apparemment, il y a eu une augmentation de 7% entre 2022 et 2023, parce que cette région-là est aussi un petit pourcentage intéressant de francophones aussi. Oui, il y a une population qui est francophone, mais il y a aussi quelques festivals francophones. Par exemple, à La Fontaine, il y a un festival qui s'appelle le Festival du Loup, qui est rattaché à une légende dans la région d'un loup qui s'attaquait au bétail.
Autant qu'il ne s'attaque pas aux touristes. Mais non, on ne veut pas qu'il s'attaque au bétail non plus. Non.
Oui, heureusement, on passe à autre chose. Je pense à la fin de l'histoire, le loup est abattu, donc tout finit bien pour les bêtes et les hommes. Ça se reflète sur le terrain, tout ça. Ils ont parlé aux propriétaires, c'est le journal Le Goût de Vivre, ils ont parlé aux propriétaires Sunport Resort Club à Tiny, une ville dans ce coin-là. Ils voient l'effet dans sa clientèle. 95% des gens qui réservent chez lui, qui vont chez lui, c'est des gens qui sont déjà allés, qui ont déjà eu une chambre, qui ont déjà resté à son resort. Donc, on a beaucoup de personnes qui tombent en amour avec la région et qui décident d'y retourner.
L'essayer, c'est l'adopter, donc.
Oui, exactement.
Une nouvelle génération de réacteurs nucléaires à venir en Saskatchewan, c'est dans l'eau vive.
On nous raconte que la Saskatchewan est bien placée pour être une des puissances en production d'électricité nucléaire. Parce que la province abrite, entre autres, un des plus importants dépôts d'uranium de qualité dans le monde, c'est dans le bassin d'Athabasca. Juste au nord de la province, là, c'est à la frontière avec l'Alberta aussi. Ils ont déjà prévu d'acheter des réacteurs, les petits réacteurs modulaires pour 2030 et 2040 pour remplacer les centrales au charbon qu'ils veulent désactiver. Puis, évidemment, on sait que l'énergie nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre, donc ça rejoint un peu la lutte au changement climatique. Puis, avec les universités dans la province, on dit qu'il y a une possibilité de créer une synergie là, entre la fourniture du carburant, l'uranium, puis la recherche dans les universités. Mais évidemment, quand on parle d'énergie nucléaire, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. La Société pour l'environnement de la Saskatchewan, elle, de son côté, n'aime pas l'idée, préférait voir du développement d'énergie plus renouvelable, comme l'éolien et le solaire. Il y a de la place aussi en Saskatchewan pour ça. Puis, il rappelle que le nucléaire, c'est plus dispendieux. Pour seulement 7% d'augmentation de production d'électricité, ça va augmenter la dette de la Société d'énergie de Saskatchewan de 40%. Puis ça, c'est sans oublier l'inquiétude avec les déchets radioactifs et l'uranium qui est radioactif. On sait toujours pas quoi faire quand on en a fini avec ça. Le dépôt en sol profond n'est pas encore construit, après tout.
Bon, un dossier important à suivre, à surveiller. Mm-hmm. Et organiser les élections au Nunavut, c'est un défi pas comme les autres. Comment ça?
Un petit texte que j'ai découvert hier du Nunavut que j'ai trouvé très intéressant à lire, c'est on nous raconte que qu'au Nunavut, organiser l'élection, c'est vraiment pas facile. Tout est loin, la population est pas très nombreuse. Il y a à peu près 25 communautés, ils sont tous éloignés, très éloignés les unes des autres. Il n'y a pas nécessairement de route, on peut pas voyager facilement. Puis les communications peuvent être difficiles aussi. Qu'on nous raconte, entre autres, le bureau de scrutin aussi à Iqaluit, ils se préparaient un peu d'avance, mais ils ont seulement eu leur mobilier de bureau le 7 avril. Donc, je ne sais pas comment ils travaillaient avant, peut-être de la maison. Le recrutement des travailleurs aussi pour l'élection, là, pour les bureaux de scrutin, tout ça peut être difficile, mais ça peut mener à des belles histoires, comme, par exemple, donner un emploi à une personne qui est sans abri parce qu'elle a perdu son emploi, qui n'a plus de revenus. Quand on travaille à Élections Canada, on reçoit une formation payée, ça peut donner d'autres compétences qui peuvent mener éventuellement à un autre emploi. Donc, il y a certains gains qui peuvent être faits de ce côté-là. Mais justement, la formation est difficile parce qu'il y en a une partie qui se fait au téléphone. Mais ce qu'on raconte dans l'article, c'est comment vérifier une pièce d'identité efficacement au téléphone. Ça, on ne peut pas regarder avec d'autres personnes la pièce d'identité puis pointer où est-ce qu'il faut regarder.
Mission impossible.
Presque. Sans oublier qu'au Nunavut, les lignes téléphoniques et l'Internet ne sont pas toujours fiables. Des fois, ça coupe. Il y a certaines communautés, on nous raconte là-dedans, qui refusent de tenir l'élection quand on les contacte. Ils ne sont pas intéressés. Donc, il faut être très diplomate pour leur rappeler que c'est pas un choix. Il faut le faire parce qu'il faut vraiment donner à tous les Canadiens l'occasion de voter. Autre particularité du Nunavut, pour compter les voix, il faut rapatrier tout ça à Iqaluit, au bureau de scrutin, et ça peut prendre jusqu'à une semaine à récupérer les boîtes. Donc, on n'aura pas de résultat officiel peut-être ce soir, le soir de l'élection. Ouais. Mais ça, c'est si tout va bien, parce qu'apparemment, en 2019, il y a un corbeau qui a mangé une des boîtes de scrutin.
Pas vrai.
Ouais.
C'est drôle, mais ça ne l'est pas en même temps. Là. Un Exactement. Corbeau qui a mangé une boîte de scrutin. J'ai jamais entendu ce genre d'histoire. C'est compliqué
c'est
en effet.
La beauté du Nord. Oui. C'est la beauté de la sauvage du Nord.
Oui. Et terminant nous parlant de la Martinique qui retrouve son chemin des Acadiens.
C'est une histoire on est retourné dans l'Acadie Nouvelle qui nous rapportait ça cette semaine. C'est qu'apparemment, après la signature du traité de Paris en 1763, il y a des Acadiens qui étaient exilés à New York qui demandaient d'être rapatriés en territoire français. Ils ont répondu à l'appel d'un marchand canadien qui avait été chargé d'établir une commune agricole au centre de l'île de la Martinique pour alimenter un peu, c'est comme un poste de passage entre deux villes côtières d'un côté et de l'autre de l'île. Il y a l'auteur André-Carl Vachon qui a publié en 2017 un petit livre d'histoire qui s'appelle « Une petite Cadie en Martinique » qui retraçait justement l'histoire de cette communauté-là. Il y a un historien de la Martinique, après avoir lu le livre, qui lui a envoyé une carte qui datait de 1928 qui contenait le nom Chemin des Acadiens sur une qui indiquait ce nom-là sur une rue dans le petit village. Mais que ce nom-là était disparu depuis. On ne le trouvait pas. C'était pas, la rue était pas, ne portait pas ce nom-là en ce moment. Donc, ils ont fait des démarches auprès de la mairie de Mont-Rouge pour que le nom revienne. Et le 13 avril, on a dévoilé la plaque pour ramener le nom Chemin des Acadiens, cette petite rue-là.
Belle histoire. Mmh. Et j'étais en train aussi de revisiter dans ma tête la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître Corbeau tenait dans son bec pas un fromage, mais une boîte de scrutin, puis il l'a mangé en plus.
Il faudrait peut-être écrire une nouvelle à propos un lien avec les corbeaux et les élections.
Oui, merci beaucoup, Julien. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.